Alors, ce matin, j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 2, et je vais lire les 12 premiers versets. Marc chapitre 2 et verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et il s'assembla dans un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est-il le plus aisé de dire au paralytique, Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, dans ce passage, il y a plusieurs choses. Et c'est vrai, quand on le lit, quand je l'ai lu la première fois, c'était une histoire très familière, etc. Après, je lis une deuxième fois, et t'es moins familière, parce qu'on commence à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées la première fois. Et puis, une troisième fois, et à chaque fois, donc, c'est une pratique d'ailleurs que je recommande, c'est quand vous lisez la parole de Dieu, de les lire trois fois, et si possible, même quatre fois de suite, le même passage. Et vous remarquerez à chaque fois que, ah, j'avais pas noter ça la première fois, j'avais pas marqué ça la deuxième fois, etc. Et des choses vraiment extraordinaires commencent à apparaître et par l'Esprit de Dieu qui révèle à travers sa parole vraiment ce que l'Esprit dit à l'Église. D'abord, ici, ça se trouve dans le contexte de Capernaum. Hein, vous voyez bien au verset 1, il revint à Capernaum. Et si on connaît bien l'histoire, où Jésus, bien sûr, a voyagé avec ses disciples dans plusieurs villes. Capernaum était une des villes où il a fait le plus de miracles. Donc, il y avait des villes en particulier où, qui ont vu le plus de miracles, et d'autres moins. Donc, il y avait aussi Chorazin et Bethsaïda parmi ces villes. Et donc, on voit bien, plus tard, juste pour situer le contexte un peu de cette ville, dans Matthieu chapitre 10, où il parle de Capernaum, justement, et où il dit, et toi, Capernaum, ah, pardon, Matthieu chapitre 11, verset 23, où il dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était le contexte de cette histoire. Il était revenu à Capernaum, donc il avait fait déjà plusieurs miracles. Et là, il a fait encore un autre miracle. Et là, dans un autre contexte, bien sûr. Donc d'abord, dans ce passage, ce qu'on voit, c'est vraiment l'histoire de l'expression même de la foi. Parce que ces personnes qui étaient venues, le paralytique, les quatre hommes qui le portaient, on fait ça, on avait cette détermination d'arriver jusqu'à la présence de Jésus, malgré tous les obstacles autour. Ouais. humainement, on aurait pu se dire, bon, soit il y a un bouchon par là, on va essayer de trouver un autre passage, ou revenir une autre fois, tout simplement, parce que Jésus était toujours là, il voyageait d'endroit en endroit, etc. Donc, pourquoi essayer de persister dans l'impossible, surtout avec un homme paralytique sur un lit, avec une foule. Donc, en général, ça ne nous vient pas à l'idée de traverser une foule quand avec quelqu'un de paralytique. En général, on essaie de trouver une autre solution. Mais là, leur foi était vraiment évidente dans leur action. Et où Jésus, malgré la foule, ils ne pouvaient l'aborder. Ils ont trouvé, ils ont cherché, et ils ont trouvé un moyen qui n'était pas vraiment qui ne sautait pas aux yeux. Donc ce n'était pas le moyen qui était d'aller sur le toit avec un homme paralytique, descendre le lit, etc., enlever le toit d'abord. Donc ce n'était pas vraiment une solution évidente ou vraiment logique même. Donc, c'est là justement quand Jésus a vu ça, sa première réaction, c'était de remarquer la foi. Donc, il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on regarde ce matin dans ce passage. Et je vais vous donner la liste là. Quatre choses, en fait. C'est d'abord, la foi trouve le moyen de s'approcher de Dieu. Et puis, on parlera de ce qu'est cette foi. La foi est accompagnée de l'énergie nécessaire pour agir. Et puis, la foi ne doute pas, mais persiste. Donc il y a une persistance, c'est la foi et le doute, ça ne va pas ensemble. Et puis la foi aussi surmonte tous les obstacles. Donc la foi trouve le moyen de s'approcher de Dieu, la foi est accompagnée de l'énergie nécessaire, la foi ne doute pas, mais persiste, et la foi surmonte tous les obstacles. Et là, on voit vraiment ces quatre choses ici. On pourrait lister d'autres, bien sûr, c'est pas un chiffre magique, mais on pourrait découvrir encore une fois, si on continue à lire 4, 5, 5, 10 fois, peut-être ce même passage, on trouvera d'autres choses à apprendre vraiment de cette histoire. Donc, les quatre hommes qui voyaient l'accès bloqué, eh bien, ils ont trouvé un autre moyen pour être dans la présence de Jésus et descendir, à partir du toit, descendir le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, au lieu de renoncer, ils ont persisté à s'approcher de la présence de Jésus. D'abord, on voit bien que c'est pour une guérison qu'ils sont là. Donc, l'homme était paralytique, il avait besoin d'un miracle pour marcher à nouveau. Et donc il y avait ce désir, cette volonté de trouver un moyen. Et donc, dire, ouais, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, ou trouver un autre moyen plus facile, c'était pas du tout dans leur pensée. Donc, eux, ils ont dit, Jésus est là, on trouvera un moyen de s'approcher de lui là, maintenant, pas demain, pas après-demain. Et donc, ça, c'est vraiment aussi une caractéristique de la foi. La foi ne remet jamais à demain ou à après-demain. Et donc, parce que Dieu nous donne la foi dans le moment, et quand une situation se présente, c'est que Dieu nous demande d'agir là, maintenant. Et c'est très souvent, c'est vrai, et là je parle aussi pour moi, c'est de manière générale, on essaye de toujours, quand on voit un obstacle, de reculer, et on trouve un autre moyen peut-être d'explication pour dire, ce sera peut-être mieux une autre fois, plus facile, etc. Mais en général, ce n'est jamais le cas parce que c'est toujours une occasion manquée. Et donc, c'est là, encore une fois, je pense, une des caractéristiques de la foi qu'on voit ici, c'est qu'eux, ils voyaient Jésus est là, donc les obstacles, ils sont là aussi, mais on veut être dans sa présence. Donc, on trouve un moyen d'aller dans sa présence, malgré tous les obstacles autour. Et vous connaissez sûrement peut-être cette expression. Là, je passe au point numéro 2, là, ici, sur l'énergie, parce que j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur ça. D'abord, ça demandait beaucoup d'énergie, de ça, de porter le lit, de le monter. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, pour quelle est la hauteur du toit, etc. Bon, ben, ça demandait quand même l'énergie, c'est pour ça qu'il y avait quatre. Mais malgré ça, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de travail aussi, nécessaire pour que Satan puisse être dans la présence de Jésus. Et bon, la foule sûrement n'a pas fait les choses, rendu les choses faciles non plus, parce que chacun était venu voir un miracle ou bien avait un autre malade qui avait besoin d'être guéri. Donc c'était pas une foule vraiment bien disposée à laisser passer, etc. Parce que c'est tout cela pour différentes raisons. Mais donc il y avait cette énergie en eux. D'abord, cette détermination, on a vu, ils voulaient être dans la présence de Jésus. Mais il fallait aussi l'énergie, donc ils avaient cette énergie, ils ont trouvé cette énergie. Et une des choses qui, en lisant ce texte encore une fois, parce que j'ai vu, ok, donc il y avait la foi, donc ils vont avancer, malgré l'obstacle. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, quelle énergie avait-il besoin pour surmonter cet obstacle? Alors, j'ai pensé à différentes expressions qu'on utilise peut-être couramment. Vous savez, peut-être l'expression « poussée par l'énergie du désespoir ». Vous connaissez, c'est une expression qu'on dit parce que quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, par exemple un coureur de marathon, etc., ils sont complètement presque à plat vers les derniers kilomètres. Et tout à coup, il y a une accélération. Donc, c'est comme si une nouvelle énergie qui arrive. Etc. Et donc après, on dit souvent, j'ai entendu parfois dans les courses, etc., poussé par l'énergie du désespoir. Donc il y a une certaine énergie que le désespoir apporte et puis qui pousse vers à avancer malgré le fait qu'ils étaient presque à zéro au niveau de l'énergie, etc., pour courir les derniers kilomètres. Et beaucoup abandonnent d'ailleurs. Parce que, vous voyez, les marathons, si vous regardez un marathon, beaucoup abandonnent. C'est ça un peu la caractéristique du marathon. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de persistance, de détermination. Ce n'est pas seulement être prêt physiquement, etc. Ils étaient tous prêts, plus ou moins, mais il fallait plus. Il fallait aussi une force mentale, etc., que simplement la préparation physique. Et souvent, ceux qui gagnent, c'est ceux qui avaient ça aussi, préparation physique, qui est très importante, mais aussi la force mentale pour continuer dans les moments de difficulté où il n'y a presque pas d'énergie. Donc, est-ce que c'est ça qui les a poussés à faire ça? Donc, cette énergie-là, cette énergie du désespoir, parce que c'était sa dernière chance. Il a vécu paralytique pendant de très nombreuses années. Est-ce que c'est la dernière chance peut-être de rencontrer Jésus et d'avoir cette possibilité d'être guéri? Mais quand on voit un peu le contexte et la manière dont Jésus répond à ces hommes, il n'a pas été émerveillé par leur plan, etc., de détourner la foule, leur force physique, de transporter, leur intelligence, de savoir comment ouvrir, faire une ouverture, etc., c'est-à-dire trouver un moyen dans un endroit où il n'y avait pas vraiment un moyen, un chemin évident. Non. Mais plutôt, ce qu'il a remarqué, c'était leur foi. Et c'est ce qu'on voit au verset 5, où il dit « Jésus voyant leur foi ». C'est ça qu'il a vu. Et donc là, je me dis, en relisant encore une fois ce passage, Jésus a remarqué leur foi. Et là, quand j'ai relu ce passage la première fois, j'ai remarqué beaucoup de choses. Ah, ils devaient être forts physiquement. Ah, ils devaient être très intelligents. Ils ont dû analyser la situation. Ils ont un très bon esprit d'analyse. Et puis... ils avaient les outils nécessaires, tout ça, toutes ces choses-là qu'on pense au niveau matériel, pratique, etc. Et Jésus, ce n'était pas du tout la raison pour laquelle, enfin, ce n'était pas ça qu'il avait vu au verset 5, clairement. Donc, voyons leur foi. Donc, il a vu. Donc, ce n'était pas la force ou l'énergie du désespoir, mais c'était l'énergie de la foi. La foi qui veut être dans la présence de Jésus, quel que soit l'obstacle. Et donc, ce n'était pas l'énergie du désespoir. Et justement, Dieu ne nous donne pas la foi avec, pour l'énergie pour ensuite nous demander d'avoir une certaine énergie du désespoir ou au niveau scientifique. Peut-être on appelle ça l'adrénaline, vous savez, physiquement, quand on se sent en danger. Eh bien, parfois, l'adrénaline monte très vite et puis, d'un coup, on a une énergie extraordinaire, etc. Ce n'était pas ça. Parce que c'est clairement ce que Jésus a vu en eux, c'était la foi. Et c'est très bien de faire cette distinction. Parce que, vous voyez bien, avec la réponse de Jésus, il savait pourquoi il était là aussi. Mais ce qu'il a fait au début, il n'a pas dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'était pour ça qu'apparemment, il était venu, donc c'était paralytique. Mais il a dit, quand il a vu la foi, il a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc c'était vraiment la réponse. Et peut-être que les gens se disent, « C'était pas pour ça qu'il est venu. Péché, c'est pas d'être pardonné. Bon, c'est un paralytique. » Donc il y avait une certaine, peut-être, confusion, on peut imaginer en tout cas, une certaine confusion qu'il dit que tes péchés sont pardonnés. Mais avec le regard de la foi, encore là, on voit autre chose. Parce que très souvent, Jésus a guéri, encore une fois, beaucoup de malades. Il a fait beaucoup de miracles dans tous ses voyages. Certains, on les connaît, d'autres, on ne les connaît pas, mais il en a fait beaucoup, énormément. Et parfois, il faisait des miracles parce qu'il y avait une situation et on lui demandait de l'aide, il a fait un miracle. Et parfois, donc, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et on peut penser à d'autres exemples comme ça. Mais souvent, quand il dit ça, c'est toujours lié à la foi, parce qu'il y avait une foi, il avait vu la foi. Et cette foi est une foi qui peut recevoir le don gratuit de Dieu. Et là, il leur donne le don directement qui vraiment leur foi avait besoin. Et c'est vrai qu'ils avaient un problème physique, un besoin matériel, etc. Mais c'était vraiment secondaire à celui du pardon de leurs péchés, d'être justifié devant Dieu. Ça, c'était le plus grand don. Et Jésus était venu donner ce don avant tout. C'est comme, vous voyez, bien fort les foules qui ont... Pendant la multiplication du pain, ils étaient tous là, ils étaient émerveillés, plus de pain qu'il n'en fallait pour des milliers de personnes. Eh bien, je ne crois pas qu'on a lu dans ce passage dire « vos péchés sont pardonnés », etc. Donc, il a nourri la foule, il a fait ce miracle. Peut-être plus pour l'instruction des disciples, mais il n'y avait pas un pardon de péché général dans cette foule. Et donc, on peut déjà voir la différence ici, parce que là, il a commencé par le pardon des péchés, et non pas par la guérison d'abord. Et c'était le plus grand don, parce que le pardon de péché est une réponse à la foi, donc, et cette foi est un don de Dieu. Ce n'est pas la foi qui vient de nous, qui vient de eux, de l'être humain. C'est un don de Dieu. Dieu a donné cette foi. Jésus a reconnu ce don de Dieu. Et il a donné le don gratuit de Dieu, qui est le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la transformation d'une nouvelle vie, en une nouvelle vie. Donc là, on voit l'ordre qui est complètement différent avec la multiplication des pains et puis d'autres miracles qu'il a fait. Où il n'y avait pas de pardon de péché, mais il y avait simplement une guérison, un miracle. Et on voit, ça c'est peut-être en relisant encore une fois, on remarque au verset 6 la réaction des scribes. Scribes, c'était des enseignants de la loi, donc eux ils connaissaient la loi. Ils étaient venus aussi peut-être voir des miracles parce qu'ils savaient que Jésus était là, donc ils étaient là. Assis, eux, par contre, ils devaient être dans la maison. Mais remarquez qu'ils se disaient au-dedans d'eux. Ils n'ont pas parlé à haute voix, dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette parole de dire « ses péchés sont pardonnés », c'est un blasphème ». C'était des scribes, ils avaient l'autorité morale, etc., auprès de la foule qui était là, de corriger s'il y avait un problème théologique déjà dans ce sens. Mais ils disaient qu'ils se disaient ça au-dedans d'eux, donc c'était simple, ils parlaient à eux-mêmes en fait. C'était sans parole, comme ça, c'était pas à haute voix. Ils se disaient au-dedans d'eux, versets 6 et 7, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et là, ils avaient raison, bien sûr. Personne ne peut pardonner les péchés que Dieu seul. Et donc, il leur manquait quelque chose sur qui était Jésus. Et c'était la raison pour laquelle, parmi d'autres raisons aussi, qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus avait fait en disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, mais ce qui est extraordinaire à noter aussi, encore une fois, c'est le fait que Jésus disait, il y avait une foule devant lui, et il connaissait les pensées de chacun, de chaque personne dans cette foule, et parmi les scribes qui étaient assis aussi, donc il avait vu ces pensées. Et c'est pour ça qu'il leur répond, Jésus, verset 8, « Ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Donc, il avait vu les pensées dans les cœurs. Et je pense aussi qu'il avait vu les pensées dans le cœur de l'homme paralytique, les pensées aussi dans le cœur des quatre hommes qui le portaient. Là, il avait vu la foi. Et chez les scribes, il avait vu le doute, il avait vu la loi qui s'exprime là. C'est plus la foi, c'est la loi. Eux, ils parlent et ils comprennent uniquement Dieu avec la lecture de la loi uniquement. Donc, et si on lit Dieu, et si on comprend Dieu par la loi uniquement, là, c'est vrai, il n'y a pas de pardon et il n'y a pas d'espérance non plus. Parce que la loi, c'est la condamnation. Le pardon, ce n'est pas la loi. Et donc, eux, ils ont vu ça par l'optique de la loi. Et alors que les quatre hommes, l'homme paralytique, Jésus avait vu aussi leurs pensées, eh bien, ils étaient venus devant lui par la foi, sachant que Jésus était venu de Dieu et qu'il avait le pouvoir de pardonner et qu'il avait le pouvoir de guérir, qu'il avait le pouvoir de bénir tout simplement. Donc, et je ne sais pas dans le texte, on le voit pas, si ils ont demandé en arrivant devant lui la guérison ou ils se sont simplement présentés devant lui et silencieux parce qu'ils savaient, Jésus sait ce dont j'ai besoin. Et c'est souvent le cas. Donc, ce que nous devons faire, c'est rechercher la présence de Jésus et non pas faire tout un exposé de ce que nous avons besoin, etc. Ce n'est pas nécessaire parce que quand on est devant lui, il sait ce dont nous avons besoin. Et les scribes, eux, donc, ils sont venus pour analyser Jésus, analyser son pouvoir de faire des miracles et pouvoir ensuite l'expliquer d'une façon peut-être rationnelle ou peut-être, bien sûr, ils l'ont déjà accusé dans d'autres circonstances qu'il faisait ces miracles par le pouvoir de Belzébul, donc du diable. Et Jésus aussi les a repris à ce moment-là, parce que comment est-il possible que le diable chasse le diable ? Donc, en chassant les démons. Donc, il y avait une contradiction, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre les choses de l'esprit. Eux, ils analysaient les choses, pas par l'esprit, mais par la loi. Et donc, c'était incompréhensible. Et ce n'était pas simplement parce qu'ils ont dit « Ah, Jésus, c'est un danger pour nous, s'il enseigne ça, il peut prendre le pouvoir. » Ce n'était pas vraiment la raison, mais c'était plus parce qu'eux, ils voyaient tout par le moyen de la loi, et la loi justement était très clair dans ces domaines. Si on pose d'ailleurs leur argument était valable. Il dit mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Donc on peut pas dire c'est un argument qui n'est pas valable. Mais si on regarde par la loi, bien c'est sûr un argument valable, mais qui fait fausse route. Donc, c'est très souvent, c'est pour ça qu'on a besoin, encore une fois, de la sagesse de Dieu. Parce qu'on peut, avec des arguments valables, faire fausse route. C'est un peu très, très compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, il faut pas, c'est pas nécessaire que les arguments soient faux pour qu'on fasse fausse route. Même avec des arguments valables, on peut faire fausse route, et c'est le cas. Ils ont complètement raté le plus grand don de Dieu, le Fils de Dieu, avec un argument valable. Et que Jésus lui-même ne conteste pas, d'ailleurs. Si vous lui posez la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, je suis d'accord. Donc, c'était la troisième chose qu'on voit aussi, c'est le fait que parmi ces quatre hommes et l'homme paralytique, il n'y avait pas de doute dans ce qu'ils ont entrepris de faire. Et ça aussi, c'est très important parce que le doute, en fait, va saper l'énergie. C'est souvent le cas. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on est assuré, même sans parler de la foi, eh bien, on a une énergie extraordinaire et puis il y a une force extraordinaire et puis... Et puis on met tous les moyens parce qu'il y a une assurance. Il y a une assurance qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie, et on le fait au bon moment. Par contre, le doute, c'est le contraire. Le doute, il y a l'hésitation. Donc l'hésitation tend à ne pas être engagé à 100%, mais plutôt à essayer de trouver un moyen de changer de plan, si nécessaire. Donc, on commence à construire différentes possibilités, etc. D'ailleurs, c'est très courant, c'est un peu courant dans la vie sociale, économique, etc. Donc, dire, voilà, il faut un plan A, un plan B. Si le plan A ne marche pas, il faut un plan B en cas où, etc. Il faut une assurance, il faut toutes sortes de choses. Au cas où le projet rencontre un obstacle. Et là, c'est le doute. Donc après, ça, non seulement on ne peut pas être engagé à 100% parce qu'il faut prévoir un moyen d'échappatoire, un moyen de sortie. Et ça demande aussi de l'énergie, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses. Et en plus, donc, le fait de douter, de chercher d'autres moyens... nous éloigne aussi de Dieu. Et donc, c'est pour ça que quand on s'engage dans la foi, et c'est encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, de l'intérieur de nous, de l'homme intérieur, mais c'est un don de Dieu. Et Dieu nous donne cette foi, ce dont nous avons besoin, au moment où nous l'avons besoin. Et c'est pour ça que quand on se dit, Dieu a fait une œuvre extraordinaire dans cette personne, et je ne sais pas si je serais capable... Et ça, ce n'est pas anormal de penser ça, parce que, en fait, bien sûr, si je ne suis pas dans cette situation, je ne me sens pas capable, parce que je n'ai pas reçu cette foi et ce don de Dieu dont j'ai besoin, et cette énergie, etc. Mais Dieu nous donne, c'est comme concernant la tentation, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas que maintenant, ok, dans 10 jours, je serai tenté, et voilà le plan de Dieu pour que j'en sorte. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, quand je suis face à cette situation, Dieu prévoit. Et c'est ça la foi. Donc, on a besoin de Dieu chaque seconde, chaque minute, etc. Ce n'est pas, j'ai besoin de Dieu dans 10 jours, donc il faudra que je demande à Dieu de me donner un plan, etc. Non, mais Dieu est présent constamment. Et donc, on a besoin de lui constamment. Et ce n'est pas quelqu'un qui est comme un conseiller qui vient nous donner des conseils sur comment résoudre une situation ou un projet futur, mais plutôt celui qui vient avec nous tous les jours, tout le temps, et il nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Et c'est ça la foi. Encore une fois, c'est la foi qui ne doute pas, mais qui persiste parce que, tout repose sur Dieu, et non pas sur un plan, sur des calculs, etc. Tout repose sur Dieu. Et donc, parce que ça repose sur Dieu, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des calculs, des plans, etc. Mais il faut la foi en lui et qu'il nous donne cette foi et ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Et c'est ça qui fait justement la foi qui ne doute pas, mais qui persiste. Parce que elle ne s'appuie pas sur ses propres moyens, mais sur ceux de Dieu. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. C'est impossible à l'homme, mais pas impossible à Dieu. Et donc, quand on sait ça, quand on croit ça, quand on a vraiment cette assurance-là, eh bien, on n'a vraiment pas besoin d'autre chose. Et on a un peu dans l'habitude dans le monde de chercher toujours des moyens de consolider les positions. Donc, que ce soit dans tous nos domaines de la vie, on dit, ouais, il faut ça, il faut prévoir ça. Donc, il faut toujours prévoir, il faut toujours se préparer au niveau matériel, au niveau santé, au niveau d'autres choses. Il y a toujours des choses à prévoir. Et parce qu'on essaie de prévoir toutes les situations, eh bien, on pense qu'on a moins ou moins besoin de Dieu. Mais sauf qu'on est dans une situation désespérée, alors on va à Dieu et puis on va avec beaucoup de doutes aussi. Et donc, la foi que Dieu nous donne est une foi paisible, qui nous donne la paix avec, et pas la panique. Et donc, il nous donne la foi, et cette foi nous apporte la paix. Donc, la paix de savoir que Dieu nous aime, et qu'il a tous les moyens, et qu'il prend soin de nous. Et donc, il a notre intérêt, toujours, à l'esprit, et que dans toutes les situations et les circonstances. Donc, la foi surmonte aussi tous les obstacles, et c'est un peu lié, bien sûr. La mission ou le projet que Dieu nous donne, que Dieu nous met dans le cœur, n'est pas forcément un projet clair, net, et il n'y a pas de questions à se poser. Si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de foi non plus. Et donc, souvent, Dieu nous appelle à des choses qui ne sont ni claires, ni nettes, et les choses ne sont pas en place. Et ça fait justement partie de notre croissance dans la connaissance de Dieu. Dieu, on est encore en formation, on est encore en transformation même, à l'image de Christ. Et donc, cette transformation demande justement que Dieu nous éprouve, que l'épreuve de notre foi n'est pas faite pour nous décourager et n'est pas faite pour nous éloigner de Dieu, bien au contraire, mais c'est pour notre croissance. Dieu le fait pour ceux qu'il aime. Et donc, les épreuves que Dieu donne et le fait que les choses dans la vie quotidienne ne sont pas faciles, alors qu'ils sont plus faciles pour quelqu'un d'autre qui apparemment ne connaît ni Dieu, ni ne recherche Dieu, eh bien, c'est encore une preuve de l'amour de Dieu, parce que Dieu veut que nous approchions de lui. Nous approchions de lui par la foi que lui nous donne, et que surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés, non pas par nos propres moyens, mais par le moyen que lui nous donne au moment où nous en avons besoin. Et donc, il est normal pour les enfants de Dieu d'être dans des situations difficiles et que les situations même soient plus difficiles que d'autres. Et donc, ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Donc là, on voit l'amour de Dieu pour nous. Si Dieu nous rendait les choses faciles, là, il faut s'inquiéter. Donc, parce que ça voudrait dire que, en fait, on n'a vraiment pas besoin de rechercher Dieu avec autant d'énergie, d'ardeur, de persistance tous les jours. Mais Dieu nous aime. Et donc, il nous mène sur les chemins, le chemin étroit, pas le chemin large. Donc, le chemin large, c'est celui qui mène vers la mort, le séjour des morts. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort à faire sur ce chemin. C'est même un tapis roulant, presque. Mais le chemin qui mène à la vie est un chemin très étroit, très difficile. Pourquoi ? Parce que Dieu, est-ce que Dieu veut rendre le chemin vers la vie plus difficile ? C'est ça la raison ? Ou est-ce qu'il veut plutôt que nous faisions ce chemin avec lui, et que pas nos propres moyens, pas un tapis roulant, mais avec lui, parce que sans lui, il est impossible de passer par ce chemin. Donc, on a absolument besoin de lui pour passer sur ce chemin, comme il est impossible au chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. C'est ce chemin-là que Dieu veut que nous prenions. Et si on dit, voilà, si tu veux être au royaume des cieux, passe par le trou de cette aiguille, et là, tu seras au paradis. Combien de personnes essaieraient de faire ça? D'ailleurs, les auditeurs eux-mêmes ont douté, mais ils disent des choses vraiment impossibles. À quoi ça sert d'écouter même? Si on lit dans ce contexte, c'est ça justement le contexte. Ils disent ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Parce que ce qu'ils disaient était tout simplement impossible. Impossible, bien sûr, sans la foi. Et donc, c'est un encouragement pour nous de voir ça, parce que ces hommes et ce paralytique n'était certainement pas préparé. Vous n'avez pas des études. Je pense que c'était des gens tout simplement qui ont entendu parler de Jésus, qui l'ont entendu enseigner la parole. Il l'a enseigné beaucoup de fois et qui ont cru sa parole. Ils ont dit, il est vraiment ce qu'il dit être. C'est le Fils de Dieu, celui qui nous a été promis et que c'est lui notre sauveur. C'est le sauveur. Donc, ils sont venus avec cette foi simple, pas des fois, la foi compliquée avec beaucoup d'analyse, d'analyser si c'est le Fils de Dieu, si c'est le prophète, si c'est Élie, si c'est Jean-Baptiste, etc. Et donc, ceux qui se sont perdus un peu dans ces analyses, eh bien, ils se sont approchés de lui sans la foi et puis ils n'ont pas trouvé le vrai sauveur. Donc c'est pour ça que ce que Dieu fait dans ce passage ici, ce que Jésus fait est un encouragement pour nous tous. Il ne demande pas de venir avec un bagage particulier, mais de venir tout simplement tel que nous sommes. Et c'est lui qui nous donne la foi nécessaire. C'est lui qui nous donne la foi qui est réelle, qui vraiment recherche Dieu plus que recherche toutes les autres solutions, etc., dans la guérison, etc., comme cet homme paralytique était venu. En toute apparence, c'était la guérison. Mais Jésus a vu la foi, donc ce n'était pas seulement la guérison. Il était venu pour autre chose aussi. Jésus a aussi guéri. Mais si on remarque bien, il n'a pas guéri parce que l'homme avait besoin de guérison, mais c'était pour prouver aux scribes leur erreur. Vous pensez que je n'ai pas le pouvoir de pardonner les péchés? Eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Et donc, il avait le pouvoir de le faire. Et donc, il n'a pas guéri pour les quatre hommes ou pour d'autres, il a guéri pour les scribes. Mais par contre, quand il a vu la foi, il a pardonné les péchés en voyant la foi. Et il a guéri en voyant le doute des scribes. Et donc, dans ce passage, on voit bien l'ordre dans lequel fonctionne la foi. C'est un ordre. Pourquoi il est ainsi? C'est parce que Dieu veut avant tout que nous recherchions sa présence, plus que toute autre chose. Sa présence, en fait, est suffisante pour tous les autres besoins. Et c'est pour ça, vous connaissez le passage, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez pas les autres choses qui seront données par-dessus avant le royaume de Dieu et sa justice. Parce que ça, c'est presque du superflu, ça. La guérison, toutes les choses de ce monde dont on a besoin, et Dieu sait qu'on en a besoin, et il prend soin des oiseaux du ciel, et combien plus de ses enfants. Mais ne recherchez pas ces choses, ça c'est des choses que Dieu donne en plus. Dieu a quelque chose, un don encore beaucoup plus grand que ça pour vous. Donc, recherchez le vrai don, le don de la vie. Et toutes ces choses sont du superflu, en fait. Ne recherchez pas ces choses. Il sait que vous en avez besoin et il vous les donnera. Mais cherchez sa présence, cherchez le royaume, cherchez la justice de Dieu. Et laissez les choses superflues. Et ne dépensez pas votre énergie sur les choses superflues, mais plutôt sur les choses importante. Voyez ça, on voit tellement ça dans les évangiles, même avec Marie et Marthe. Vous connaissez cette histoire où Marthe était occupée avec les repas, la vaisselle et toutes sortes de choses, et Marie était au pied du Seigneur à écouter, et puis Jésus a, il a vraiment montré Marie un exemple, alors que Marthe, qui travaillait le plus dur, la sueur peut-être, on dirait que c'est elle qui méritait plus d'attention et de reconnaissance que Marie, qui était assise. Mais c'était le contraire, en fait. Parce que Marthe était occupée au superflu, alors que Marie était occupée à l'essentiel. Et ils auraient pu rester là, avec de l'eau, ça aurait été suffisant, peut-être. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait que nous demandions la sagesse, encore une fois, à Dieu, de nous montrer quelles sont, dans toutes circonstances, les choses essentielles. Rechercher avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, les choses essentielles. Ne pas les choses superflues. Parce que c'est ça qui fait notre croissance. C'est ça qui fait notre transformation à l'image de Christ de gloire en gloire. Il était là pour l'essentiel. On le voit très bien dans sa vie, qui était tellement simple avec les disciples, roi des rois, seigneur des seigneurs, comme un berger, sans foyer, sans maison, sans argent et sans rien. Il n'avait pas besoin de tout ça, parce qu'il était concentré sur l'essentiel. Et ceux qui n'avaient pas la foi ne comprenaient rien à ça, parce qu'ils ont dit, bon, ça ne peut pas être le roi, c'est impossible, ça ne peut pas être le Messie, encore moins, ça ne peut pas être le Sauveur qui nous a été promis. Il ne ressembla aucunement à ça. Et donc, vous voyez, avec une fausse interprétation aussi, cela a mené beaucoup de monde dans l'erreur. La foi aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc c'est un don de Dieu, mais c'est un don de Dieu qui est aussi entretenu, renforcé par la parole de Christ. Et donc la lecture, la mémorisation, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce qui renforce, contribue à renforcer notre foi chaque jour. Et donc, parce qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, c'est lui qui donne cette parole. Et aussi dans Éphésiens 2, 8, vous connaissez ce verset, que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions, et que nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est complète, il n'y a rien à y ajouter, en fait. Il n'y a rien à y enlever, non plus. Mais du début à la fin, Dieu a accompli son œuvre. Et en Romains chapitre 8, on voit très clairement quelques paroles simplement, où il dit au verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, son œuvre est complète. Il n'y a rien à y ajouter, en fait. Quand nous venons à Dieu, nous venons avec un récipient vide. Et c'est lui qui le remplit. Donc, on ne vient pas avec un récipient plein, mais un récipient vide. Pourquoi ? Parce qu'on vient pour recevoir, pas pour donner à Dieu. Dieu, c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et donc, le fait de venir à lui avec cet esprit d'humilité, de dépendance en lui, parce que nous sommes sa création, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu nous transforme à son image pour de bonnes œuvres. Et non pas pour tout simplement continuer à vivre la vie d'avant, mais pour de bonnes œuvres, pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, avant la fondation du monde. C'est pour ça, verset 30 de Romains chapitre 8 nous dit ça. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, avant la fondation du monde jusqu'à la glorification, il a déjà un don complet. Et qui n'a pas besoin qu'on y ajoute quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà, donc, frères et sœurs, donc, je vous encourage à continuer dans la méditation de la parole de Dieu, l'entretien aussi de la foi par la parole de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse Je vais conclure par la prière, prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole, parole qui est si riche, et plus on la lit, plus on découvre qui tu es, plus on découvre qui nous sommes aussi. Et Seigneur, nous te prions de continuer à nous donner d'avoir faim et d'avoir soif pour ta parole, et que ton esprit nous remplisse de ta sagesse afin de discerner les choses meilleures, les choses d'en haut, et non pas ce qui est superflu sur la terre. Que tu nous donnes l'énergie, que cette énergie soit vraiment au service de ta parole, au service du royaume et de la justice de Dieu. Nous te prions de bénir cette église aussi avec toute la foi que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci.